voix nue. Toute cette semaine, Séverine Yatta rencontre Françoise Zonabend. Ce soir, l'intellectuelle de la famille.
Bonsoir Françoise Zonabend.
Bonsoir.
Alors vous êtes anthropologue, vous êtes ancienne directrice d'études à l'école des hautes études en sciences sociales, où vous avez enseigné, fait des recherches sur l'anthropologie de la France. Vous entrez au début des années 60 au laboratoire d'anthropologie sociale, le LAS, qui est alors dirigé et créé par Claude Lévi-Strauss et Isaac Kiva, l'un s'attachant plutôt à étudier les sociétés lointaines et puis l'autre les sociétés proches, mais avec l'idée qu'il faut inclure dans les recherches toutes les cultures et les traiter avec la même méthode ethnographique. Et puis entre 67 et 1964, vous menez votre première grande enquête de terrain à Minot, donc qui est un petit village du Châtillonnais, avec trois autres chercheuses, et vous étudiez notamment les fonctions de la parenté et puis les imbrications entre la mémoire collective et puis la mémoire familiale. Alors vous avez publié entre autres La mémoire longue, Mœurs normandes, ethnologie du roman de Raoul Gain, et puis La presqu'île nucléaire, à partir du cas de la Hague, donc le site nucléaire du Cotentin. Et puis vous avez dirigé aussi un temps la revue Gradiva, et puis vous avez collaboré à de nombreux ouvrages sur la famille, les parentés sans sexualité, la question du deuil aussi, lors de la mort prématurée du fœtus ou du nourrisson. Et puis, aujourd'hui, vous travaillez beaucoup sur la revisite de vos sources et de vos dossiers, et vous vous interrogez aussi sur les problématiques de la restitution de l'enquête. Alors, pour commencer cette série d'entretiens, je voudrais qu'on commence un petit peu sur votre histoire familiale, vos origines, comment vous en êtes arrivé à l'anthropologie, votre enfance aussi, qui est un petit peu particulière. Vous êtes née en 1935, Françoise Zonabend.
Oui, ça fait longtemps. Oui, effectivement, rien ne me prédisposait à devenir ethnologue. Et c'est vrai que c'est un métier qui n'était pas, disons, courant dans mon milieu familial. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, mes parents étaient des enfants d'immigrés, mais mon père était lui-même venu avec ses grands-parents du fin fond de la Roumanie. Ma mère était née à Paris, mais ses parents venaient de Russie. Ils se sont rencontrés à Paris et ils ont fait toute leur vie à Paris, mais c'était dans un milieu, disons, d'artisans. Mon père était artisan horloger. Il montait des carillons à l'époque. C'était très à la mode. Ça l'est beaucoup moins maintenant. Et ma mère, elle, pour ainsi dire, jamais travaillé parce que elle a eu 5 enfants. C'était une grande famille dont elle s'est occupée. Et effectivement, dans ce milieu venu des fins fonds de l'Europe, on n'avait qu'une idée, c'était effectivement s'adapter, vraiment devenir, pouvoir vivre et s'instruire en France. Mes parents, la seule chose qu'ils voulaient, c'est qu'on fasse des études. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, les unes et les autres, parmi mes sœurs. Mais au fond, ce qu'ils voulaient, c'est qu'on ait un métier de ces métiers que tout le monde connaît, médecin, dentiste, avocat. Voilà, c'était ces professions-là dont on nous parlait beaucoup. Mais la recherche, les sciences humaines, etc., c'était vraiment quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Je crois qu'ils ont eu beaucoup de mal à comprendre ce que je faisais, même quand j'ai essayé pendant très longtemps de leur expliquer la différence entre l'ethnologie et l'anthropologie sociale. Ils me disent « oui, bon, d'accord ». Tu vas t'occuper des gens d'ailleurs. C'était ça.
En tous les cas, Françoise Zonabend, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur cette période de guerre, parce que voilà, votre famille est d'origine juive. C'est un moment où vous allez vivre aussi la dangerosité. Il va falloir déménager, se cacher.
Oui, c'est vrai. C'est une période dont j'arrive très difficilement à parler, ce dont mes enfants d'ailleurs me reprochent tout le temps. Mais j'ai eu une enfance agréable, choyée, mais quand j'y pense, les événements qui me reviennent à la mémoire, c'est l'angoisse. C'est le départ brusque. On est parti en exode au début de la guerre de 40.
Où êtes-vous parti?
En exode, on a quitté Paris et on est allé vers l'ouest. On s'est arrivé dans le seul nom qui me revient, c'est Sillé-le-Guillaume. C'est vraiment, je ne peux pas vous dire où c'est. Mais, et on s'est retrouvé là, dans une sorte de dortoir. Mon père n'était pas là, ni mes oncles, et, parce qu'ils étaient soldats. Et donc, on est parti, ma mère et sa sœur, donc ma tante et les enfants qui étaient nés à cette époque. Mais ma tante, elle savait à peine conduire. Et on était parti comme ça, sur la route, parce que tout le monde partait. Donc on a fui. Et puis on est arrivé au bord de la mer. Et là, on s'est arrêté quelque temps. Et puis après, on est revenu parce que mon père est rentré. Il y a eu la... il avait 3 enfants déjà, donc il a pu être démobilisé assez tôt. Il fallait revenir travailler à Paris. Donc on est rentré à Paris. Et là, c'est les bombardements qui ont commencé. Je me souviens d'alerte où mon père me prenait dans ses bras et me disait « Vite, vite, il faut qu'on aille se réfugier dans le métro parce que ici, c'est trop dangereux. » Et on montait, on habitait en bas de l'avenue MacMahon. Il fallait monter cette avenue jusqu'à l'Étoile pour trouver un métro. Enfin bon, et ces moments-là qui me reviennent constamment, et puis après, il a fallu fuir Paris, l'appartement, parce que on nous a fait savoir qu'on avait été dénoncés, et que en tant que juive, on allait être pris bientôt, et qu'il fallait qu'on quitte très très vite l'appartement. Alors on est parti dans la banlieue parisienne, ou à Comble-la-Ville, c'est à 35 kilomètres de Paris, pensant que là, on serait un peu plus en sûreté. C'était, heureusement, vers la fin de la guerre, c'était en 1943-44. Mais mon père, il devait rentrer tous les jours pour travailler. Et il devait aller à son atelier pour vendre des pendules, parce que c'était notre seule source de revenus. Et donc, je me souviens de ma mère qui, tous les soirs, attendait que mon père revienne en se disant « Mais pourquoi il n'est pas là? Pourquoi le train a du retard ?» Et moi, je me disais, mais pourquoi ma mère, elle est aussi
anxieuse,
angoissée, et c'est ça, je ne comprenais pas. Voilà, c'est toutes ces images-là qui constamment me reviennent. Et puis après, quand on est rentré à Paris, la guerre était finie, on nous a dit qu'on pouvait rentrer, mais l'appartement avait été mis sous scellé, et il n'y avait plus rien dans l'appartement. Plus un jouet, plus un livre, plus un meuble. Plus rien de ce qui était notre passé, de ce qui était ce que mes parents tentaient d'accumuler ici pour nous transmettre après, eh bien, plus rien, voilà. Et est-ce que c'est ça parce que, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait plus ces objets qui sont, que je me suis mis à travailler sur ces vieilles familles qui constamment me parlaient d'objets qui venaient de leur arrière-grand-mère, qui elle-même l'avait reçu de sa grand-mère, etc. Tout ça me fascinait. Mais au début, bon, ça c'est plus tard que je m'en suis rendu compte.
La question de la transmission.
Voilà, la question de la transmission, de la mémoire, de la mémorisation. En plus, il y avait des sujets qu'on n'abordait pas avec les parents, c'est-à-dire qui était la famille, où elle était.
Ça, vous n'en parliez pas,
non,
notre famille.
On en a parlé de Roumanie, un peu plus tard. De Roumanie, on savait. Bon, je l'ai su beaucoup plus tard. Et que, pourquoi est-ce qu'ils ont quitté la Roumanie? Pourquoi ma mère et les parents de ma mère sont quittés la Russie, etc. Enfin, toutes ces données-là, ce n'est que beaucoup plus tard qu'on a pu leur parler et qu'ils nous ont un petit peu raconté, mais nos grands-parents étaient morts à ce moment-là et on n'a pas eu le temps de vraiment faire cette recherche mémorielle. Mais bon, c'est comme ça. Et j'ai essayé de prendre peut-être la mémoire des autres.
Et avec vos sœurs, Françoise Onabène, donc vous êtes la seconde, la troisième.
De cette sororie. Sommes une sororie, c'est-à-dire que nous sommes 5 filles, sans jamais qu'aucun garçon ne soit venu interrompre cette sororie, et surtout on s'échelonne sur un long laps de temps, c'est-à-dire qu'il y a 18 ans de différence entre l'aînée et la dernière. Donc, on a eu le temps de s'habituer les unes aux autres et de se différencier les unes des autres aussi. Mais c'était quand même quelque chose. On est toujours resté cette entité et on a fait en sorte de garder pour nous cette chaleur d'être des sœurs ensemble. Et c'est vrai que constamment, malheureusement maintenant, il y en a deux qui sont disparus, mais Sonia, l'aînée, et puis Janine, la seconde, et elles n'en finissent pas de nous manquer aux trois autres.
Ouais, vous êtes restées toujours très liées, à la fois enfant, adolescente, et puis aussi après dans votre vie d'adulte.
Oui, on était très liées, et tout en étant très différentes les unes des autres, parce qu'on, quand même, on s'échelonnait, on avait beaucoup de différences les unes avec les autres, puis on a eu envie de faire des choses différentes les unes des autres. Aucune n'a fait la même chose que l'autre. Peut-être que si Daniel a travaillé avec Sonia c'était Sonia Riquiel, et quand elle a commencé à faire ses boutiques, à un moment, Daniel, la quatrième, est venu travailler avec elle pour mettre en place les accessoires. Mais les autres, ni Janine, ni Muriel, la dernière, ni moi, nous n'avons vraiment travaillé les unes avec les autres.
Quoi qu'il y a des liens parfois, est-ce que vous, par exemple, oui, même avec Sonia Riquiel, par exemple, le fait que vous travaillez sur, je ne sais pas, l'anthropologie, l'ethnologie, est-ce qu'il y a des influences ou vous avez travaillé, par contre, et vous travaillez toujours avec Muriel, c'est ça qui est...
C'est pas qu'on travaille, enfin, c'est qu'on se rencontre. C'est-à-dire que nos problématiques tout d'un coup se rencontrent. Muriel, qui est psychiatre, psychanalyste et travaille avec Friedman, a beaucoup travaillé sur les nouvelles parentés, sur les procréations médicalement assistées. Et il se trouve que dans mes recherches sur la parenté, je me suis mis moi aussi à travailler sur les nouvelles formes de fabrication de la parenté. Et aussi sur des tas de rituels de la parenté qui l'intéressaient parce qu'elle a travaillé sur la mort du nourrisson, la mort du fœtus ou des nourrissons. Et effectivement, j'ai dit, mais tu sais, dans les sociétés traditionnelles, qu'elles soient lointaines ou actuelles, il y a beaucoup de rituels qui correspondent à toutes ces recherches que tu fais. Et donc, comme ça, elle m'a dit, écoute, raconte-moi ce que tu sais. Et puis, voilà, c'est comme ça, quand elle a fait un colloque sur mourir avant de naître, par exemple, eh bien, j'ai fait un exposé dans son colloque pour expliquer mes connaissances, enfin, lui montrer mes connaissances et faire venir à elle, au fin de compte, l'anthropologie. Comme elle m'a fait comprendre qu'il y avait des choses actuelles dans la parenté nouvelle qui pouvaient aussi m'intéresser. Sur la fabrication, la procréation médicalement assistée, sur des tas de façons de vivre ces nouvelles mises en place d'une parenté qui n'est pas biologique.
Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire mourir avant de naître, justement?
Mourir avant de naître, c'est-à-dire naître au sens avoir été. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand vous avez un enfant mort-né, par exemple, ou que vous faites une fausse couche? Et que devient le fœtus? Et donc, toutes ces façons dont les sociétés traditionnelles se sont posées des problèmes. La mortalité infantile était très importante, surtout autrefois, et les jeunes bébés, les jeunes enfants mouraient très, très vite et très nombreux. Donc, ils ont mis en place tout un ensemble de rites, de façons d'être, de stratégies peut-être, mais c'est peut-être trop fort de dire que ce sont des stratégies, c'est des façons de s'accommoder.
De faire le deuil aussi.
De faire le deuil de ce malheur qui leur arrive. Alors que pendant très longtemps, on a cru qu'on a négligé ces formes de mort, en pensant que combien de fois, autrefois, on disait « Oh, il n'a pas eu le temps de vivre, c'est pas important, etc. » Et tu vas en avoir un autre. D'ailleurs, dans notre société, l'enfant, le nouvel enfant né, eh bien, on lui donnait le nom de celui qui était mort avant lui. Donc, on lui faisait déjà porter ce deuil. Donc, il fallait réfléchir à toutes ces façons-là, comment les sociétés pense les aléas de la vie familiale, de la vie biologique, et qu'on pouvait avoir un dialogue entre les psychiatres, les psychanalystes et les anthropologues.
En fait, à vous, alors peut-être pas à vous cinq, vous meniez un petit laboratoire de pluridisciplinaire entre vous d'une certaine manière. Il y avait, enfin, je mets entre guillemets évidemment parce que vous allez participer à un autre laboratoire pluridisciplinaire, beaucoup plus institutionnel plus tard. Mais il y a comme ça une sorte d'émulation aussi.
Oui, c'est vrai qu'avec surtout avec Muriel et les travaux qu'elle a poursuivis avec Friedman. C'était très important pour s'ouvrir sur d'autres univers, sur d'autres façons. Et quand parfois, ou moi, quand j'ai voulu faire des colloques sur la mort, le fœtus et le nourrisson, ben, je lui ai dit de venir nous expliquer comment ça se passait, la mort des fœtus et des nourrissons dans ces hôpitaux actuels, dans le service où elle était avec Friedman. Donc c'est vrai qu'il y avait une sorte d'émulation et une sorte d'ouverture de l'une à l'autre. Mais avec les autres sœurs, c'était différent. C'était d'abord c'était notre admiration pour Sonia, qui vraiment, c'était très facile d'être habillée parce que il suffisait qu'on aille chez elle et on trouvait toujours de quoi se mettre.
C'était plutôt bien habillée en plus.
Oui, c'était pas mal, c'était vraiment. Et puis c'est vrai qu'il y avait ces fêtes de famille autour des parents et moi j'étais un peu. Alors c'est là où on a commencé à me demander aussi de rassembler des choses sur la famille, à essayer de comprendre et d'enregistrer les tantes ou les cousins qui restaient encore. Mais enfin bon, tout ça a été peut-être un peu tard et peut-être qu'on n'a pas fait ce travail de mémorisation qu'on aurait pu faire les cinq filles ensemble. C'est drôle, c'est qu'entre nous, on parlait même. Peut-être parce qu'il y avait beaucoup de différences entre, mais les trois aînés, on se tenait en 5 ans, donc on a vécu la guerre ensemble et on a oublié beaucoup de choses, mais quand même la personne qui nous a dénoncé et qui a fait qu'on n'avait plus rien à la maison, je vous assure que ce nom-là, on s'en souvient.
En tous les cas, Françoise Onabène, au sortir de la guerre, bon, vous êtes encore jeune, mais comment va ce cheminement justement jusqu'à l'anthropologie? Voilà, il y a la période du lycée et puis après, j'imagine l'université. Donc votre mère voulait que ses filles fassent des études, oui. Ça on l'a compris.
Fassent des études ou aient un travail en tous les cas. Il n'était pas question.
Ce qui était plutôt inédit pour l'époque.
Ce qui était inédit parce que ma mère n'avait pas fait d'études, mon père non plus. Ils avaient leur certificat d'études et pour des filles en plus. Surtout dans un milieu juif, les filles devaient rester à la maison et attendre qu'on les marie. Mais c'est pas ce qu'on a voulu faire. Et notre mère, vraiment, elle n'avait qu'une idée, c'est qu'on ait chacune un métier et un métier qui nous plaise. Alors, elle a pensé effectivement aux études. C'était ce qu'elle pensait être la meilleure des choses pour nous. Mais on n'a pas toutes eu envie d'en faire. Il y en a eu essentiellement, effectivement, c'est Muriel et moi qui avons fait les études supérieures. Les autres étaient moins intéressées. Elles ont eu d'autres destinées. Mais c'est parce que, il n'était pas question qu'on reste à la maison.
Il fallait être autonome aussi, il y avait cette idée-là chez votre mère ou pas spécialement? Il fallait être indépendante aussi économiquement ou...
Non, c'était pas tellement ça, parce qu'ils nous ont toujours aidés dans nos études et favorisé ces études et ça posait pas trop de problèmes. Mais le problème, peut-être, c'était que nous ne pouvions pas trouver auprès d'eux une orientation ou des conseils. Il fallait que, parce que eux, tout ce qui était de l'ordre des études supérieures, ils connaissaient mal.
C'était pas leur milieu.
C'est pas leur milieu, c'était pas leur monde. Mais quand j'ai voulu continuer après le bac, ils m'ont dit d'accord. D'ailleurs, tu devrais être avocate. Alors j'ai commencé à faire des études de droit. Je me suis tellement ennuyée en faisant ces études de droit que j'ai dit c'est pas possible. Oui, j'ai effectivement décidé de m'orienter vers la Sorbonne et d'aller vers les sciences humaines. Et pas tellement les sciences humaines, c'était plutôt pour moi, j'étais fascinée depuis ma classe de sixième par la préhistoire.
Alors pourquoi ça vous avez imité?
C'est pas pourquoi la préhistoire, les pierres, la géologie, toute la mise en place de notre l'archéologie, tout ça me fascinait. J'ai voulu faire ça, et donc quand on voulait faire de la préhistoire à mon époque, il n'y avait pas tellement de. Une fois que j'étais à la Sorbonne, il fallait faire une licence. Et j'ai donc fait une licence de sociologie, et c'est comme ça que dans la licence de sociologie, il y avait cette option préhistoire. Tout était, pendant très longtemps, il y a eu une sorte de coïncidence entre la préhistoire, l'anthropologie sociale et l'anthropologie physique. C'était les trois sciences qui, même au CNRS, pendant très longtemps, il n'y a eu qu'une seule commission pour ces trois disciplines, qui étaient pourtant différentes. Mais bon. Et donc j'ai pris l'option sociologie avec l'option préhistoire. Et c'est comme ça que j'ai fait le certificat d'ethnologie avec l'option préhistoire.
Mais finalement, vous ne faites pas de préhistoire. Alors, notamment parce qu'on vous a conseillé de pas le faire aussi.
Voilà, parce que à l'époque, la personne qui faisait la préhistoire la plus connue, c'était Leroy Gourhan. C'était André Leroy Gourhan. Et je me souviens, j'ai été faire des fouilles à Arcis-sur-Cure avec lui et avec d'autres élèves. J'ai fouillé avec passion à Arcis-sur-Cure, j'ai rien trouvé, mais c'était quand même très passionnant. Et quand j'ai voulu, bon, il fallait que je choisisse après le certificat d'ethno, il fallait que je décide de faire une thèse. C'était une thèse de troisième cycle, etc. J'avais la licence et je me suis dit, je vais faire une thèse de préhistoire, et je suis allée voir Leroy Gourhan. Et je lui ai dit, voilà, monsieur, j'aimerais faire de la préhistoire. Et il m'a regardé, il m'a dit, écoutez, avec votre tête et votre allure, vous feriez mieux de faire de l'ethnologie. Et c'est pour ça que voilà, j'ai fait de l'ethnologie.
Il vous entendait quoi? Qu'il fallait être costaud, un homme un peu.
Et c'était un homme. Et si vous savez combien de fois j'ai entendu cette réflexion, avec votre allure, avec votre blondeur, avec votre ça a été une des phrases lancinantes de mon itinéraire et ce n'est que vraiment maintenant que j'ai fini par écrire là-dessus, en me disant quand même ça suffit. Pourquoi à la fois le sexe, j'étais une femme, pourquoi ça avait tellement d'importance dans l'orientation de nos recherches et surtout du choix de nos objets de recherche. Il fallait que, on ne pouvait pas faire n'importe quoi.
Il sous-entendait aussi, Leroy Gourhan, à l'époque, que l'anthropologie étant une discipline nouvelle, a priori, les femmes pourraient se frayer un chemin en anthropologie plus facilement. Enfin, parce que c'est toujours un petit peu ces problématiques qui ressurgissent dans le cas des femmes universitaires et
Font de la recherche. C'est vrai que, la discipline et l'anthropologie sociale étaient une discipline nouvelle. Enfin, l'ethnologie, l'ethnographie, elle n'est pas aussi ancienne que l'histoire, par exemple. Même la sociologie était déjà
un peu plus installée.
Vraiment, l'ethnologie, c'est le début du XXe siècle, et ça a été peut-être pour cette raison que beaucoup de femmes s'y sont
engouffrées.
Non, elles ont parmi les grandes anthropologues d'avant la guerre, il y a eu beaucoup de femmes.
Alors, donnez-nous des exemples.
Vous avez, même en France, vous avez eu Denise Paume, Germaine Déterlin, des personnes comme ça. Mais surtout aux États-Unis, vous avez eu Margaret Mead, Ruth Benedict. Ce sont des noms qui ont fondé l'anthropologie. Mais c'est vrai, quand on y réfléchit, après, même maintenant, disons qu'on les a toujours un peu cantonnés dans des recherches où soi-disant les femmes pouvaient exceller. Elles devaient étudier les femmes. Ce qu'on leur demandait, c'est surtout de faire de l'ethnographie, c'est-à-dire de vraiment rapporter des documents de terrain, des données de base de terrain. Soi-disant que les femmes étaient particulièrement douées pour cette ethnographie de terrain. D'ailleurs, je me souviens que Lévi-Strauss, dans, je crois que c'est de près ou de loin, dans ses entretiens avec Didier et Ribon, on lui demande quelle qualité il faut pour faire l'ethnographie. Et il dit, écoutez, l'ethnographie, c'est un ouvrage de dame. C'est pour ça que les femmes y réussissent tellement. Ceci dit, sans aucune idée péjorative, ajoute-t-il. Mais quand même, oui, c'est ça. C'est que on pense qu'effectivement, les femmes sont plus méticuleuses, elles sont plus capables de s'attacher aux détails, à des choses que peut-être auxquelles les hommes ne feraient pas attention, et que de ce fait-là, elles vont pouvoir rapporter des données extrêmement importante, auxquelles personne peut-être n'avait pensé.
Mais Françoise Onaben, il proposait comme un partage des tâches, donc aux femmes le terrain, mais pas n'importe quel terrain, on y reviendra hein, quand même, hein, pas le terrain lointain, pas trop lointain, et aux hommes la théorie, du coup.
Oui, c'est un peu ça, même dans lorsque les femmes partent, parce que les femmes, avant la guerre, les femmes Margaret Mead et Ruth Benick, elles ont fait des terrains lointains et très, très durs. Et surtout à leur époque. Mais peut-être qu'on avait cette idée-là, qu'elles étaient, peut-être, elles devaient s'orienter vers cette façon de recueillir des données de base et peut-être laisser à d'autres l'analyse, une analyse plus fine et plus, surtout plus théorique. Ça n'a pas empêché certaines de faire aussi des travaux analytiques et théoriques très importants. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, la façon dont les femmes ont été perçues en anthropologie, c'était un peu comme ça. Le partage des tâches se faisait aux femmes, les femmes, le milieu féminin.
Etc. Il y avait cette idée-là aussi, voilà, au niveau des domaines, en tous les cas, le domaine féminin. Aux femmes, parce que comme si les hommes ne pourraient pas pénétrer certains milieux masculins.
Les hommes pensaient qu'ils ne pouvaient pas pénétrer des milieux féminins. Or, il semble bien que la position de l'ethnologue, surtout sur les terrains exotiques, est totalement différente. L'ethnologue sur le terrain exotique est un étranger. Et quoi qu'il fasse, il est ni homme ni femme. Donc, il aurait pu aussi, sans doute, s'interroger ou pénétrer des mondes féminins. Mais, sans doute, c'était moins glorieux.
En tous les cas, vous, Françoise Onaben, vous allez faire votre thèse sur les lycéens de Dakar. Un premier sujet.
Oui, non, mais parce que j'ai commencé à travailler dans un centre qui s'appelait le Centre international de l'enfance, qui était un organisme lié aux Nations Unies et qui s'occupait des enfants, en particulier en Afrique. Et quand j'ai eu fini donc de faire cette licence et que j'ai décidé de faire une thèse et que poussée par le roi Gourand, je me suis dit que j'allais faire de l'ethnologie. Et bien, comme je travaillais au Centre international de l'enfant, je vais dire, je vais partir en Afrique. Et effectivement, comme par hasard, j'ai travaillé sur les lycéens, sur les jeunes enfants de sixième à Dakar. Et c'est comme ça que j'ai fait cette thèse d'anthropologie, enfin d'ethnographie, avec Mercier et Ballandier. Et puis après, je suis revenue en France et...
Et vous allez changer de sujet.
Et j'ai changé de sujet. Parce que, voilà, parce que les circonstances ont fait, je me suis mariée, j'ai voulu avoir des enfants, il fallait que je reste en France.
Et nous y reviendrons. Françoise Onaben, merci. À demain. Oui.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Séverine Liattard avec Françoise Onaben. À voix nue. Attaché d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Benjamin Chauvin. Réalisation, Manouchak Fachaï. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.